chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis à Maubourguet. Plus exactement, je suis devant l'hypermarché Super U Maubourguet, route de Tarbes. Parce que donc, nos amis de la Confédération Paysanne ont eu une très bonne idée de mettre en avant un petit peu leurs valeurs, leurs combats, au-delà de la situation de la dermatose. Et donc je suis avec l'un de ses responsables qui va se présenter en quelques minutes et nous dire pourquoi ils ont fait le choix de cette action. Bonjour.
Bonjour, donc je m'appelle Thomas, je suis maraîcher à Montgaillard et je fais partie de la Confédération Paysanne 65. Et donc aujourd'hui on se retrouve là avec en fait à l'appel d'un collectif citoyen qui s'appelle Changeons Tout Maintenant, qui est né des blocages là d'il y a quelques temps qui ont lieu là, de Bloquons Tout là. Et donc ils se sont regroupés, à l'intérieur il y avait des paysans, et ils ont dit ce serait chouette qu'avec la Confédération Paysanne, là, on marque un peu le coup et on se retrouve sur une action. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc on a un marché paysan et donc une agora pour discuter, en effet il y a une actualité là qui est pour discuter du Mercosur, et là une nouvelle actualité qui a vu le jour récemment avec la crise de la DNC, là, de la dermatose nodulaire contagieuse.
Alors justement par rapport à cette situation, cette actualité, ce type d'action pour vous, il est important bien sûr, mais l'objectif principal c'est quoi ?
Là, c'est ce type d'action, c'est en effet aussi de rencontrer les citoyens, d'expliquer un peu notre vision des choses. Sur la DNC, on a un accord là qui a été trouvé il y a deux jours, un accord en fait intersyndical pour des mesures un peu plus radicales sur notamment contre l'abattage et pour une vaccination généralisée là dans les troupeaux. Et donc on s'est retrouvé à plusieurs syndicats. Et là aujourd'hui, c'est sur le Mercosur. Sur le Mercosur, il y a aussi une entente, on va dire, intersyndicale, en tout cas pour l'instant, un gouvernement qui, un jour oui, un jour non, est contre. Et donc, c'est pour rappeler, en fait, nos positions qui, là-dessus, sont très claires, plus claires, en tout cas, que les autres syndicats qui, en fait, semblent négocier ce traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur, alors que nous, comme tous les traités d'échange, de libre-échange, nous sommes contre, car on va pouvoir y revenir, mais ça implique en effet une marchandisation à outrance de l'alimentation. Et donc nous, on préfère en fait être vers un échange plus vertueux, ne pas importer en effet des produits qui desservent nos paysans et nos citoyens, mais aussi, et c'est là que les autres syndicats ne font pas ce pas-là, c'est d'aller vers les pays producteurs, les pays émergents, et de dire que c'est aussi à eux de relocaliser leur alimentation. Et nous, on ne veut pas des cultures d'exportation qui détruisent les économies locales, qui malmènent la main-d'œuvre, et on veut en effet soutenir les paysans dans tous les pays, quoi.
Alors c'est aussi l'occasion d'appeler et de demander aux citoyens de se mobiliser, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, le contexte va bien au-delà du monde agricole, et il va en fait sur le principe même des échanges et de la démocratie. Et donc c'est aussi l'objectif, c'est de réveiller un peu les citoyens.
En effet, ouais, c'est vrai que toutes ces crises-là engendrent des actions, et en fait, on va vers les citoyens en leur disant « c'est vous qui avez la main en fait ». Parce que même, je vois par exemple au maraîchage, on apporte 50% de nos légumes et fruits et légumes, alors qu'en effet, on pourrait les produire ici. C'est aussi la démarche des citoyens de se dire, peut-être sur certains produits, je vais faire plus d'efforts. À certains moments de l'année, je vais faire plus d'efforts. Certains disent que c'est forcément plus cher. Il y a eu des analyses de fait, c'est pas vrai, quoi. On peut acheter local et pas forcément plus cher. Et on veut pas, nous, en tout cas, à la Confédération Paysanne, que ce genre de combat qu'on mène pour les paysans entraîne une alimentation à deux vitesses, où il y aurait une alimentation, on va dire, pour les riches, bio, local, ou avec des produits certifiés, et une autre alimentation. Et en se battant contre ces accords de libre-échange, c'est justement pour dire non, on peut faire une alimentation locale. Si tout le monde consomme, il y aura des volumes. S'il y a des volumes, il y aura aussi des baisses de prix. Et on veut dire aussi qu'il faut que les pouvoirs publics s'emparent de ça et aident aide les paysans, mais aide aussi les consommateurs, notamment ceux qui ont les moins de pouvoir d'achat. Et on, du coup, on est pour une aide sur l'alimentation avec des aides pour les plus démunis à ce niveau-là, quoi. Et la sécurité sociale de l'alimentation qu'on préconise, eh ben, va vers cette action-là, quoi.
Et alors bon, c'est aussi donc un appel aux citoyens, et parce que l'heure est grave, hein, je pense qu'il est temps que tout le monde se réveille, l'heure est grave. Et donc le meilleur acte possible pour les citoyens, c'est déjà de consommer les produits locaux.
Exactement, les citoyens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont quand on boycotte quelque chose ou quand on va vers quelque chose dans sa consommation. On fait bouger les lignes. Il n'y a pas qu'un bulletin de vote, il y a ça au quotidien, quoi. Et on mange au minimum, je l'espère, 3 fois par jour, et donc on peut faire cet acte 3 fois par jour au moins.
Oui, puis c'est aussi un acte important parce que on est français, on a des valeurs profondes, on a une racine rurale profonde, hein. Et inévitablement, ce qu'on voit souvent, c'est que il faut aussi se mobiliser parce que c'est nos enfants, nos petits-enfants qui sont dans la menace. Aujourd'hui, on le sait trop, ils sont devant leurs écrans, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est aussi une réalité brutale avec tout ce qu'on voit au niveau mondial, au niveau des discours qu'on entend. Et c'est vrai que revenir aux vraies valeurs, et notamment les valeurs traduites par le rural et à ce que vous portez, c'est important.
Oui, oui, nous, ce qu'on dit, c'est aussi en termes écologiques, qu'on la terre ne nous appartient pas, on en hérite. Et en hériter, c'est hériter de nos anciens qui faisaient en effet des cultures qui sont très proches de l'agriculture paysanne que nous l'on porte, avec des petites fermes, voilà, à échelle humaine, avec une autonomie des paysans sur leurs fermes. Donc ça, c'est ce qui existait autrefois. Et ce qu'on porte aussi dans notre mode de production, qui est plutôt tourné vers l'agriculture biologique et en tout cas le respect du vivant, c'est aussi pour en effet nos enfants, en disant qu'en préservant les milieux, en préservant les fermes, voilà, la surface agricole utile en agriculture, c'est 50% de la France. Donc si sur toutes les fermes, on arrive à être précautionneux et à prendre soin du vivant, du sol notamment, eh ben, c'est toujours ça de gagner sur l'environnement pour nos enfants, en effet.
Alors une dernière question, c'est la période de l'Avent. Donc c'est la période, je dirais, entre guillemets, du grand consumérisme. Hein. C'est les fêtes de Noël, il faut acheter. Si on devait faire une préconisation aux gens qui nous écoutent, à nos auditeurs, sur quel geste vous pouvez faire, un geste utile justement, vous pouvez faire pour aider le monde agricole, l'agriculture et puis le territoire à vivre.
Oui, alors c'est vrai qu'à cette période-là, on a tendance à trop acheter. Donc un premier truc général, je dirais d'acheter moins pour éviter du gaspillage. J'ai cru entendre qu'il y avait un gaspillage énorme à cette partie de l'année. Voilà, les repas où on prévoit beaucoup trop. Donc déjà, peut-être prévoir moins et prévoir mieux en achetant évidemment des produits locaux, des produits de saison aussi. Parce que voilà, c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de produits, mais on peut faire de très bonnes choses avec des légumes d'hiver. Et donc, voilà, il y a aller sur les marchés. Il y a des beaux marchés encore à cette saison. Pour les maraîchers, par exemple, c'est le printemps qui est le plus compliqué. Mais là, à cette saison, vous avez encore toutes les courges, les pommes de terre, des oignons, et puis toutes des salades, des poireaux. Et en effet, avec des produits simples et de qualité, là, on peut sûrement faire de très bonnes fêtes en famille.
Et ben voilà, un très beau message. Merci infiniment. Merci pour ce beau message.
Merci à vous.
Et puis, chers auditeurs, ben écoutez, je pense que ce qui vient d'être dit est important et vous devez aussi vous mobiliser parce que l'heure est grave. Réveillons-nous. Merci.
Merci à vous.
Afin de conclure cette chronique, chers auditeurs de Radio Présence, je vous propose de partager ce qu'a proposé le père Arnaud Favard, délégué de la Mission Rurale France, à l'occasion de cette situation gravissime de la crise agricole. Le titre de ce manifeste est « L'âne et le bœuf en détresse ». Un vent d'exaspération gronde chez les éleveurs. Dermatose, tuberculose, fièvre catarrhale, leur réglementation est impitoyable. Après vérification des services vétérinaires, le troupeau entier est abattu. Des années de soins, de sélection et de relations avec les animaux sont mises à bas. Pour un éleveur, c'est vraiment difficile de s'en remettre. On ne reconstitue pas un troupeau comme on change de tracteur. Les vaches, c'est du vivant, c'est de la relation. L'éleveur a été présent jour et nuit au moment des vélages. Il est venu chaque jour avec la tonne à eau aux périodes de sécheresse. Il a récolté le foin pour l'hiver. Il a tissé des liens avec plusieurs générations de mères. L'abattage du troupeau n'est pas seulement violent pour les bêtes, il est aussi pour l'agriculteur. Me revient en mémoire ce verset du prophète Isaïe : le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Projeté dans le contexte du XXIe siècle, ce verset de la Bible manifeste l'importance du lien avec les animaux domestiques. Le décalage s'avère problématique avec ceux qui ont pouvoir de décision et le manque d'accompagnement criant. En installant la crèche avec les familles du catéchisme, je ne m'attendais pas à ce que le sujet s'invite dans les murs de l'Église. Il est vrai que l'élevage dans la région, c'est sacré. Devant le bœuf et l'âne, l'émotion est palpable. Quelqu'un demande à les retirer, d'autres proposent de les coucher pour faire signe de leur détresse. Déconcerté par la demande, je propose de revenir discuter chez eux le lendemain. La nuit portera conseil. Le lendemain, j'entre dans la cour de ferme. Les arguments fusent et l'échange est rude. Nous sommes sur le terrain et personne ne vient nous écouter. Jour et nuit, nous vivons avec la crainte. Quand est-ce qu'on arrêtera tous ces transports des animaux ? Les insectes vecteurs de maladies, eux aussi, empruntent les camions. On a besoin de lois qui nous protègent, pas de lois qui nous sanctionnent. N'attendez pas de nous bénir quand on sera dans le cercueil. Venez nous bénir et nous soutenir quand nous sommes encore vivants, avec nos bêtes. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce désarroi et ce sentiment d'abandon chez celles et ceux qui nous nourrissent chaque jour et qui subissent trop seuls le poids des contraintes. Que peut-on faire en Église ? Dans les régions d'élevage, je connais bien des confrères qui sont attentifs, qui travaillent à une meilleure compréhension commune. On ne peut tout de même pas oublier qu'à Noël, des éleveurs furent les premiers avertis de la naissance de Jésus. Pour en revenir à la crèche, finalement, nous nous accordons localement sur un ruban violet qui sera discrètement mis au cou du bœuf et de l'âne. Quelle que soit la manière de faire, l'important, c'est de rompre la solitude et de donner le signe de la prière et de la solidarité. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite de belles fêtes de Noël.